Bonsoir tout le monde, bonsoir auditeurs, auditrices du Diwa et puis d'ailleurs de plus loin, ceux qui nous écoutent par internet. On est jeudi soir, on est le 7 juin aujourd'hui, il est 19h30 et c'est le début de l'émission Feu de tout bois. Alors la petite musique qu'on a entendue là au début et qu'on entend toujours un petit peu en bruit de fond, c'est la musique du début d'un film qui s'appelle « Mourir à Madrid » de Jean Vigo. Un film qui a été réalisé en 1963 avec des images d'archives de la guerre civile et de la révolution espagnole qui a eu lieu entre 1936 et 1939 et qui va être un de nos sujets de ce soir dans « Feu de tout bois ». Et donc ce soir, nous accueillons Richard avec nous derrière les micros. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Voilà, Richard qui est venu, donc, puisqu'il est, il est passionné par cette histoire de la Révolution espagnole et il va pouvoir nous en parler, on va pouvoir en parler ensemble. Et puis sinon, au sommaire de cette émission de ce soir, du 7 juin 2012, on n'aura pas tellement de sujets, mais chaque sujet sera assez consistant, donc on va parler également un tout petit peu des événements qui sont en cours pour le moment de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Vous en avez sans doute entendu parler, ce que certains médias appellent la révolution érable. C'est une formule qui fait mouche en journalisme. Et donc voilà, on en dira quelques mots, on écoutera aussi quelques morceaux de musique qui nous viennent de là-bas. Et puis enfin, on parlera d'une initiative qui dure depuis à peu près un an à Grenoble, un groupe qui s'appelle la Fabrique du Futur et qui réfléchit à des questions d'économie. Et voilà, on va pouvoir entendre une interview de personnes qui font ce projet, ce groupe de la Fabrique du Futur à Grenoble. Mais alors on peut peut-être tout de suite commencer à introduire notre sujet principal du jour, donc qui est cette histoire du siècle dernier, hein. Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant que ça a eu lieu, presque 80 ans qu'elle a eu lieu, cette révolution sociale en Espagne, qui a beaucoup marqué les esprits, qui a beaucoup fait parler d'elle. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, des films qui ont été tournés, de la musique, des émissions de radio, enfin c'est un sujet quand même qui a... Voilà, qui a fait parler pas mal, mais on pense que c'est toujours d'actualité d'en parler maintenant, et c'est pour ça qu'on va vous en parler ce soir. Peut-être pour resituer un peu le contexte, Richard, tu pourrais nous faire peut-être un peu un historique de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les événements marquants finalement de ces quelques années.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai compilé quelques éléments marquants donc de la chronologie et de ce qui est régulièrement appelé la guerre d'Espagne, la guerre civile. Et l'idée, en fait, elle n'est pas exhaustive parce qu'évidemment, ça nous prendrait bien plus qu'une émission, mais c'est de mettre un peu en avant des sujets que l'on pourra traiter qui sont... au moins, de mon point de vue, des événements marquants de cette période. Donc, caractérisée par une guerre civile, puisqu'il y a eu des affrontements entre Espagnols, mais caractérisée surtout par une révolution sociale, dont on va parler un petit peu après avoir fait tout le récapitulatif. Alors, pour commencer, donc... on va s'appuyer au départ sur la dictature de Primo de Rivera qui a eu la même mise sur l'Espagne, on va dire, de 1923 à 1930. Et après cette dictature, donc, la Deuxième République d'Espagne est proclamée. Il faut noter que Primo de Rivera avait le soutien du roi d'Espagne, Alfonso XIII, qui a fui en fait l'Espagne après la victoire de nombreux candidats républicains lors d'élections municipales. Et c'est à la suite de ce départ du roi qu'a été proclamée la Deuxième République.
Donc ça, c'était en 1930.
Ça, c'était en 1930, voilà, début 1931. Voilà. Donc pour donner quelques repères, on va dire, En Espagne, à cette époque, il y a à peu près 24 millions d'habitants. Il faut savoir qu'il y a 8 millions de pauvres, soit un quart de la population en fait, et 12 millions d'Espagnols et d'Espagnoles qui n'ont reçu aucune éducation scolaire. Et vous le verrez par la suite, mais vous verrez que c'est important puisque les mouvements révolutionnaires se sont beaucoup appuyés sur le fait d'amener de l'éducation à la population pour fédérer autour d'eux et autour de l'envie de changement.
Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Espagne était très rurale à cette époque. Je ne sais pas c'était quoi la proportion de paysans, mais on était encore dans un modèle de société où la révolution industrielle n'avait pas encore eu lieu autant qu'en France ou qu'en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe.
Oui, tout à fait. Bon, là je n'ai pas de données précises, chiffrées à citer, mais ce qui est sûr, c'est que les rares pôles industriels espagnols étaient autour des ports, quoi, on va dire. En gros, hein, c'est toujours globalement le cas, mais ça s'est un peu développé. Et puis, il y a d'autres pôles d'attraction en Espagne, hors la ruralité, on va dire, ou l'agriculture. Donc là, c'était plutôt la Catalogne avec Barcelone qui était plutôt industrialisée, le Pays basque. Et un petit peu l'Andalousie, même si c'était quand même très fortement rural.
Et puis, donc, pays très rural, mais donc avec des très gros propriétaires fonciers qui possédaient d'énormes domaines, des grandes propriétés, avec des paysans qui travaillaient encore presque comme des serfs, on peut dire, en tout cas, qui étaient très, très mal payés, qui vivaient très pauvrement et qui travaillaient, voilà, pour des salaires de misère.
Oui, ça c'est aussi, hein, je parlais du manque d'éducation de la population, mais le fait que l'immense majorité enfin une grande majorité des Espagnols travaillaient dans les champs et en fait étaient employés globalement à la journée. Hein, ça se trouve plus actuellement, enfin pour ceux que j'en connais au moins, que quelquefois dans les bûcherons ou autres, hein, c'était des tâcherons quoi, à la journée. Et donc les grands propriétaires avaient non seulement les biens à eux, mais aussi une totale mainmise sur leurs employés, alors qu'ils employaient à dessein, on va dire, de temps en temps, quand ils avaient besoin pour les récoltes, qu'ils les renvoyaient dans leur chaumière ensuite. Donc ça a été c'était un phénomène qui a cristallisé beaucoup de la colère paysanne à cette époque.
Et donc pourtant, dans ce contexte qu'on pourrait dire peut-être comme ça, vu de loin, assez défavorable aux idées d'émancipation sociale, à l'organisation politique, aux envies de changement, eh bien, il s'est quand même passé des choses qui montrent que la population, elle avait envie de...
Oui, donc pour reprendre ça et arriver un petit peu jusqu'au mouvement d'émancipation, il y a eu en février 1936, donc on a fait un petit saut un petit peu dans l'histoire, on avait parlé de la Deuxième République en 1931, et en 1936, c'est le Front Populaire Espagnol qui a gagné les élections législatives, on peut dire, c'était pas. Je ne sais pas si ça s'appelait exactement comme ça à cette époque-là, mais c'est ce qui correspond à ça. Et donc, il faut noter que c'est la première fois dans l'histoire que les anarchistes n'appelaient pas à l'abstention. Alors, le distinguo est subtil, mais il existe. C'est-à-dire que les mouvements anarchistes ont bien appelé à ne pas s'abstenir et non pas à aller voter. C'est un distinguo, puisque on va dire que les théories anarchistes rejettent toute forme de désignation d'élus irrévocables, on va dire. Donc on va dire que c'est la première fois, et le Front Populaire est passé de justesse. On ne va pas dire que c'est grâce aux anarchistes qu'ils ont été élus, mais parce que beaucoup d'anarchistes n'ont quand même pas été votés par conviction. Mais sans ce geste-là, il y a peu de chances que le Front Populaire ait réussi à prendre le pouvoir.
Et donc, ce qu'il faut préciser, c'est que justement, les anarchistes, à l'époque, en Espagne, représentaient une force sociale importante au travers du syndicat qui était la CNT-AIT, qui avait 1 ou 2 millions d'adhérents, enfin, un nombre très important, chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui.
Oui, alors là aussi, je ne vais pas être super précis, mais si je ne me trompe pas, on doit avoir un grand maximum de 7% de syndiqués, tous syndicats confondus, y compris syndicats de la magistrature ou autres, donc pas que des syndicats ouvriers. Donc actuellement, en France, il doit y avoir 7% de syndiqués. À l'époque, on va dire, si on prend la fourchette, entre 1 et 2 millions. Ça représentait donc sur 24 millions de la population, donc qui ne compte pas que les travailleurs, qui englobe tout le monde. Donc de 1 à 2 millions, ça veut dire qu'il y avait entre 5 et 10% de la population totale de l'Espagne qui était syndiquée, un syndicat anarchiste, anarcho-syndicaliste en l'occurrence. Donc juste pour préciser que le chiffre que je donnais de 7% de syndiqués à l'heure actuelle, je crois bien que c'est sur le nombre de travailleurs, et pas de la population. Donc là, ça faisait une échelle, ouais, c'est difficile à s'imaginer au jour d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Oui, si tu veux, je continue un petit peu sur l'histoire un petit peu, puisque donc je viens de dire le Front Populaire a été élu en février 1936. Il faut savoir que ça a été très très mal vécu évidemment par toutes les forces qu'on pourrait dire de droite ou réactionnaire, puisque ça englobait aussi l'Église, etc., qui y avait un énorme pouvoir en Espagne à cette époque. Et donc, en fait, pour contrer l'élection du Front Populaire en février, il y a des généraux espagnols qui ont préparé une tentative de coup d'État, en fait, qu'ils ont donc lancé du 17 au 19 juillet 1936, on va dire, c'était les dates qui s'étaient données. Donc, à savoir que ce mouvement a été surtout initié par deux généraux, le général Mola et le général Franco. C'est Franco qui va prendre la
direction.
La direction, ouais, c'est difficile à définir, quoi, qui va prendre le pouvoir sur ce mouvement d'attaque contre la République, puisqu'il faut quand même rappeler que c'était des militaires. Donc en théorie, on va dire un bon militaire, ils auraient dû rester fidèles à la République, mais là ils ont décidé d'essayer de la renverser en fait, pour revenir à un ordre dictatorial. Donc Franco en fait était allé au Maroc, où l'Espagne avait une colonie et beaucoup de forces positionnés là-bas pour contrer, pour faire leur travail de colonisateur, on va dire, et contrer toutes les révoltes marocaines. Et donc voilà, ce mouvement des militaires en fait a été assez bien préparé quand même, puisqu'ils avaient quand ils ont décidé de lancer le coup d'État, ils avaient quand même le soutien de l'Église, des monarchistes, de toutes les forces réactionnaires de droite de l'Espagne, et notamment d'un parti créé peu de temps auparavant qui s'appelle la Falange, qui a été un gros point d'appui pour Franco au long de sa dictature ensuite.
C'était pas vraiment un parti d'ailleurs, la Falange, c'était un peu une organisation militaire, clandestine, pas forcément clandestine, mais en tout cas...
Alors on va dire pas forcément clandestine, ce qui est sûr c'est que c'était le fils du dictateur de 1923 à 1930, Primo de Ribeira, donc le fils prend la suite et... Qui a créé effectivement, on peut pas dire un parti puisque il n'avait pas de visée électoraliste dans un premier temps, c'était un groupe d'opposition en gros à toutes les forces sociales. Pour donner aussi un petit peu une idée de l'ambiance, c'est quand même une époque où en fait tous les leaders ouvriers, on va dire, pas que les dirigeants syndicaux anarchistes, tout le monde, tout ce qui essayait de favoriser l'émancipation de la classe populaire et laborieuse, on va dire, espagnole à l'époque, était susceptible de se faire à tout moment tuer par ce qu'on appelait les pistoleros, qui étaient des tueurs à gages engagés par le patronat et diverses forces opposées à l'émancipation sociale qui essayaient de mater, de contrer tout développement de ces mouvements par des coups de main. Voilà, y avait une grande violence. Alors dire qui a commencé, évidemment, on s'en fiche un peu et ça va rien changer. Mais bon, il faut savoir que voilà, le patronat à cette époque-là aussi n'hésitait pas à user de moyens très très violents contre tous les mouvements ouvriers.
Alors on pourrait peut-être s'écouter un petit morceau de musique, faire une petite pause et puis reprendre cette histoire après. Donc là, je vous propose d'écouter un morceau chanté par Serge Ugeroyo qui s'appelle Hijos del Pueblo.
Hijos. Hijo. Hijos del pueblo, te oprimen cadenas. Y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses, asas egoístas, que así desprecian a la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir. Solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Diwa, RDIWA, 107.5 FM. Et nous sommes dans l'émission Feu de tout bois. Nous parlons de la Révolution espagnole en compagnie de Richard. Et là, on était lancé sur un historique, finalement, pour resituer un petit peu c'est quoi les dates importantes. Donc, on venait de parler du soulèvement armé des généraux contre la République espagnole. Et on va voir ce qui se passe après.
Alors, le coup d'État donc, a été... lancé par les généraux le 17 juillet 1936. On va dire qu'on peut considérer la fin de la tentative de coup d'État au 19 juillet. Parce que, comme on a discuté tout à l'heure de l'importance des forces anarchistes, anarcho-syndicalistes, et on peut dire même révolutionnaires, il y avait d'autres forces dont on parlera tout à l'heure qui ont participé à cela. Il y a eu donc un soulèvement pour en fait contrer la tentative de coup d'État des militaires. Et l'État républicain, on va dire, n'ayant quasiment plus aucune force à lui, puisque les généraux avaient levé avec eux une bonne partie de l'armée, évidemment. Donc les seules forces capables de contrer cela ont été les forces populaires, en fait. Et donc c'est à l'initiative de la CNT que le 19 juillet, beaucoup de gens sont descendus dans la rue avec les armes qu'ils pouvaient récupérer à droite, à gauche, on va dire. Il n'y a eu aucun armement qui leur a été donné. Ils ont tous été le récupérer et ils ont commencé à aller attaquer en fait les casernes qui tentaient la rébellion. Et dans certaines régions, comme notamment en Catalogne, puisque la CNT avait une très très forte implantation à Barcelone, donc à partir de ces régions-là, il y a beaucoup de casernes qui ont dû rendre les armes et qui n'ont pas pu se soulever, et qui n'ont donc pas pu, dans les zones où elles avaient de l'influence, instaurer ou renverser la République. Donc, pour rappeler, pour mémoire, la CNT à cette époque comptait entre 1 et 2 millions d'habitants.
De membres, tu veux dire, d'adhérents.
D'habitants, pardon. Oui, d'adhérents. J'étais ailleurs. Donc, 1 à 2 millions d'adhérents. Et donc, elle a mobilisé toutes ses forces et d'autres forces révolutionnaires, comme on peut citer le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un rassemblement de deux ou trois parties donc qui se revendiquaient clairement des idées marxistes. Donc il y avait le PUM, il y avait un autre syndicat aussi qui se nomme l'UGT, qui était plutôt proche du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol de l'époque, le PSOE, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il est devenu maintenant. Mais voilà, à savoir que c'était un syndicat proche du Parti Socialiste, mais révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il visait à court terme, on va dire, l'émancipation des travailleurs de tout pouvoir. Là, je pense qu'on peut peut-être écouter un petit passage où on aura un petit passage qui présentera les idées anarchistes en vogue à l'époque.
Et on peut juste préciser, donc ce passage, il est extrait d'une série d'émissions radio, de 20 émissions radio qui ont été réalisées il y a déjà quelques années, puisque c'était en 2003, par une collaboration entre Radio Zinzine et le CIRA de Marseille, et qui nous raconte les souvenirs de la guerre d'Espagne, écrit par un type qui s'appelait Antonio Jiménez, et qui, avant de mourir, quand il était vieux à Marseille, a rédigé ses souvenirs, ses mémoires de la guerre d'Espagne. Et donc, l'extrait qu'on va entendre vient de cette série d'émissions radio.
Il dit aussi qu'il ne fallait jamais désespérer, malgré les échecs, les défaillances, les trahisons. L'humanité marchait vers l'anarchie, c'est-à-dire vers la liberté absolue de tout individu, vers cette forme de société où il n'y aura au livre des lois que deux articles. 1. La liberté d'un individu finit là où la liberté d'un autre commence. 2. Chacun doit produire selon ses possibilités et consommer selon ses nécessités. Puis il me rappela cette phrase d'Élisée Reclus : l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. C'est Camillo Berneri qui me donna de la progression sociale cette image. Le cheminement de l'humanité est comparable, me dit-il, à une migration de fourmis rouges dans les pays tropicaux. Elles avancent en rang, serrées, détruisant toute vie animale ou végétale sur leur route pour se nourrir. Les indigènes allument des feux, creusent des fossés pour les détourner, les arrêter dans leur marche et protéger ainsi leurs champs, leurs récoltes. Les fourmis avancent. Les premiers rangs étouffent le feu, comble le fossé plein d'eau. Les autres passent sur les cadavres calcinés ou noyés de ceux qui se sont sacrifiés pour que leur peuple arrive là où il pourra construire la nouvelle cité. Les anarchistes ont été depuis toujours le fer de lance du progrès social vers la liberté absolue de l'être humain. Obligés par les réactionnaires à user de la violence pour défendre ou conquérir les droits à la vie, nous exposons nos idées, mais nous nous refusons toujours à les imposer par la force.
Là, c'est dans l'émission de radio et dans le récit d'Antonio Jiménez, qui a d'ailleurs un récit qui a été monté en feuilleton radiophonique, comme on vient de le dire, mais qui est aussi tiré d'un livre qui s'appelle Les Fils de la Nuit, dont l'auteur est évidemment Antonio Jiménez. Il faut savoir qu'Antonio Jiménez était un milicien qui a fait partie des colonnes principalement, enfin lui, la sienne était clairement d'obédience anarchiste, et au sein de cette colonne il faisait en plus partie, on va dire, des brigades internationales, c'est-à-dire que c'est un mouvement de solidarité internationale de tous les révolutionnaires qui à l'époque quand le peuple espagnol s'est soulevé pour contrer le coup d'État, voilà, beaucoup de militants révolutionnaires d'Europe et du monde. Hein, il pouvait y avoir des Américaines, des Sud-Américains, en fait, ça venait des Maghrébins, il y a eu beaucoup, enfin, bon, il y a eu beaucoup de militants révolutionnaires qui sont venus soutenir ce mouvement populaire. Voilà. Et donc, ces idées anarchistes, c'est un dialogue entre Antonio Jiménez et Berneri. Et Berneri, en fait, était un militant italien qui était venu ici, je m'y vois, qui était venu en Espagne pour soutenir le mouvement et donc aider à la propagation de ses idées. Autre chose à dire, donc on a entendu dans l'extrait les grands idéaux, on va dire les plus communément diffusés du mouvement anarchiste, à savoir que pour diffuser ces idées, on en a aussi, on a parlé dès le début que en fait la population était très faiblement alphabétisée. Et donc les mouvements qui prenaient l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes, donc au premier rang desquels évidemment la CNT et tout le mouvement anarcho-syndicaliste, ont fait un énorme travail, on va dire fin 19e. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des périodes où le mouvement anarcho-syndicaliste et révolutionnaire en général a été très fortement réprimé, donc il était plutôt en sommeil, mais ils ont développé toute une politique d'éducation populaire en fait, en s'appuyant sur, alors pour tout ce qui est éducation des enfants, sur Francisco Ferrer, qui était un pédagogue qui avait créé l'école moderne, le mouvement de l'école moderne, donc toute une pédagogie où en fait on donnait énormément et on tenait beaucoup compte des souhaits de l'enfant dans l'éducation, etc. Et donc une éducation un petit peu nouvelle, ils ont essayé de transmettre en fait toutes ces, on va pas dire les idées, mais la CNT à cette époque-là a vraiment fait un gros effort donc en termes d'éducation pour toutes les classes d'âge, toutes les classes sociales, autant qu'on pouvait faire de distinguo dans la misère du peuple espagnol de l'époque, et classe de sexe aussi, puisque en fait les femmes avaient au sein du mouvement anarchiste une place et un accès à l'éducation et à tout un tas d'activités qu'elles n'avaient pas par ailleurs. Alors je vais profiter donc de parler de la cause des femmes dans la révolution, parce que on tombe assez facilement dans un discours où on met un peu en exergue souvent les héros et les fortes têtes, on va dire, des mouvements révolutionnaires, et ils sont souvent masculins, et c'est quand même une occasion de signaler là que sur ce mouvement comme sur beaucoup d'autres, mais sur celui-là on va dire qu'il y a des exemples très concrets de mouvements féministes. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de différences qui sont proches du Parti Socialiste, du POUM. Le PC était presque inexistant au début du soulèvement, mais pourquoi pas proche du PC, évidemment proche des anarcho-syndicalistes et du mouvement libertaire. Donc il y a eu énormément d'activités féminines et de revendications féministes à l'époque. Et un des mouvements, évidemment, dont on va parler un petit peu plus, c'est un mouvement donc qui se revendiquait du mouvement libertaire, les Mujeres Libres, c'était donc les femmes libres, qui est une association de femmes, donc qu'on va présenter dans un petit extrait audio, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais qui a énormément milité, que ce soit pour l'éducation des femmes, ou pour la diffusion des idées et pour contrer un petit peu le machisme ambiant à l'époque, y compris, il faut quand même le souligner, dans le mouvement anarchiste, qui n'était loin d'être exempt de tout reproche.
« Voyons de plus près comment la question du rapport entre hommes et femmes est abordée dans la révolution en cours. Dans le récit, Jiménez évoque un instituteur qui s'enhardit à réclamer pour les femmes les mêmes droits que pour les hommes, signe que cet état d'esprit n'était pas très répandu dans l'Espagne des années 30, même si le théoricien anarchiste Anselmo Lorenzo avait écrit en 1872 que « la femme est un être libre et intelligent et en tant que telle, elle est responsable de ses actes ». Dans ses mémoires, Abel Paz évoque un hameau de la province de Lérida où les femmes se retrouvent à tous les postes de l'activité collectiviste. Et à Barcelone, il a pour amis de jeunes femmes anarchistes qui s'investissent complètement dans la lutte et ne sont pas les dernières à critiquer la politique de la CNT et de la FAI. Mais d'autres militantes estiment que l'émancipation de la femme ne résultera pas mécaniquement de la révolution sociale et qu'il faut engager une lutte spécifique. Le groupe Mujeres Libres est né en décembre 1934 et la revue du même nom est fondée en avril 1936 à Madrid. Jusqu'en 1939, 20 000 femmes animeront ce mouvement et publieront 13 numéros de la revue. Cette organisation féministe veut amener les ouvrières au mouvement libertaire espagnol et revendique la libération des femmes vis-à-vis du capital, du patriarcat et de l'ignorance, dans le cadre plus large de l'émancipation de la classe ouvrière. Les intellectuels et les ouvrières qui l'animent s'investissent totalement dans la révolution, tant au front que dans les usines, les collectifs d'éducation et de formation, les réseaux de solidarité. Elles deviennent rapidement une force propositionnelle et analysent dans leurs rapports et leurs congrès les enjeux de la guerre, du pouvoir, des oppositions politiques et syndicales. Mujeres Libres constitue un mouvement convergent et autonome, mettant les militants anarchistes face à leur propre incohérence. Ainsi, ils se plaignent que les femmes ne soient pas assez combatives, mais leurs propres épouses n'assistent jamais aux réunions politiques et syndicales. On peut imaginer qu'elles auraient aussi souligné, dans le discours de l'instituteur, la contradiction suivante. Après avoir critiqué le traditionnel rapport de protection et de dépendance entre mari et femme, il trouve normal que dans le cadre de relations émancipées entre les sexes, ce soit encore l'homme qui ramène l'argent au foyer. Or, dans l'argumentation de Mujeres Libres, il est central que la femme soit considérée comme un individu à part entière, ce qui implique qu'elle puisse subvenir à ses besoins si elle vit seule, ou participer aux revenus du ménage, rompant ainsi autant que faire se peut avec la division du travail et des rôles entre les sexes. L'accès au travail est certes l'un des biais par lequel la femme sort de la sphère privée, contribue à son émancipation sociale et se dégage de son sentiment d'infériorité, mais est-ce suffisant ? Question subsidiaire et éternelle. Peut-on réduire l'activité humaine au travail ?
Alors, voilà pour cette présentation de ce mouvement féministe qu'on pourrait presque, si c'est pas leur faire injure, qualifier d'avant-gardiste dans toutes les positions qu'elles ont prises et défendues relatives à leur émancipation. Alors, pour donner quelques petits repères de l'attitude masculine vis-à-vis de ce mouvement et aussi des avancées concrètes qu'elles ont obtenues. On pourra citer d'abord, il faut savoir, alors là, son nom m'échappe actuellement, mais qu'une des fondatrices du mouvement était, ne s'en cachait pas d'ailleurs, connue pour être lesbienne. Moi je peux dire que des ragots, puisque je n'en sais rien, hein, je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais donc il y a taxé cette femme d'être plutôt d'un tempérament libertin, on va dire. Et donc, en conséquence, évidemment, les, on va dire, entre guillemets, camarades anarchistes surnommaient ce mouvement les Mujeres Libres. Ce qui, au lieu de femmes libres, signifie les femmes lapines. Donc, si vous voyez un petit peu à quel niveau ça volait, y compris au sein du mouvement libertaire. Et donc, eh bien, la meilleure des réponses qu'elles aient pu apporter, ça a été leur auto-organisation en tant que femme. Et chose importante à prendre en compte, puisque des fois, ça provoque au jour d'aujourd'hui encore des frictions dans tous les mouvements, on va dire, alternatifs, hein, pas que simplement anarchistes sur le coup. Il faut savoir que c'était une organisation non mixte, c'est-à-dire qu'elles ont, dès le début et jusqu'au bout, revendiqué en fait leur droit à s'auto-organiser elles-mêmes pour se libérer donc de l'oppression masculine, à savoir que des camarades très sympathisants avec le mouvement des Morelles, qui ont souhaité à plusieurs reprises écrire des articles dans leur revue, par exemple, ont toujours été refusés, non pas parce que le contenu ne convenait pas, mais parce qu'elles tenaient vraiment à ce que ce mouvement soit et appartienne qu'aux femmes.
C'était Frédérica Monzeni dont tu...
Non, c'était malheureusement, ce n'est pas Frédérica Monzeni, donc on peut parler tout de suite. Par contre, je crois que c'est Saurlin, son nom de famille, mais malheureusement...
Lucia Sanchez Saurlin.
Voilà, exactement, c'est d'elle-même que je voulais parler.
Qui a réanimé une revue d'ailleurs, puisque ce qui apparemment... Les Mujeres Libres ont été lancés en 1934 à Barcelone. C'était le nom de leur revue, en fait, qui s'est appelée Mujeres Libres. Et Lucia Sanchez Ornil a fait partie des écrivaines, des animatrices de cette revue.
Voilà. Alors, à savoir juste pour pour l'histoire directe des Mujeres, c'est parce qu'on peut trouver... ou certains qui pourraient faire des recherches trouveraient d'autres sources pour être un peu désorientés. Il faut savoir que, donc, après la guerre d'Espagne, les femmes réfugiées en France ont recréé, je crois que c'était en 1973 de mémoire, une revue, Mujeres Libres, qui a republié un petit peu pour prendre la continuité du mouvement de 1936. Et donc, voilà, on peut trouver aussi une histoire des revues Mujeres Libres avec des femmes espagnoles qui avaient repris la rédaction et la mise en page d'un journal à elles, voilà, avec une militante bien connue qui s'appelle Sara Berenguer, qui, il faut le savoir, en 1936, elle n'avait pas souhaité adhérer aux Mujeres parce que mouvement non mixte, et qui a finalement été à l'initiative de relancer la dynamique un petit peu pour faire honneur à toutes leurs camarades perdus ou en difficulté et continuer la lutte féministe.
Comme quoi on peut réfléchir avec le temps et changer d'avis parfois.
Oui, tout à fait. Et puis je crois que là, il faut vraiment contextualiser les choses, puisque c'était en 1936, dans un mouvement d'émancipation générale, on peut comprendre qu'il y a eu des points de vue vraiment divergents sur le point de vue de la non-mixité, même au sein des féministes convaincus, on va dire. Effectivement, après, en voyant les maigres victoires se déliter, etc., on peut retrouver certains arguments en faveur de cette auto-organisation. Peut-être, oui, voilà, je voulais juste revenir sur Federica Monzeni, dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, c'était donc elle était une militante à la CNT, hein, donc elle n'avait pas adhéré aux Mujeres parce qu'elle était déjà beaucoup investie par ailleurs, on va dire. Et il faut savoir que pour contrer Franco, pour être bien vu des gouvernements européens, la CNT avait assez curieusement, on peut dire maintenant, mais à leur époque, évidemment, dans le contexte là aussi, ça se justifiait parfaitement, accepté qu'il y ait des ministres anarchistes dans le gouvernement de la République. Et donc il y a eu notamment Federica Monzeni, donc une femme qui a été ministre de la Santé et qui a, entre autres choses, réussi à faire adopter une loi légalisant l'avortement. Donc je vous rappelle qu'on est en 1936 en Espagne. Et donc même si cette loi, vu le fonctionnement par région de l'Espagne, n'a pas été appliquée partout, il faut savoir qu'en Catalogne, en 1936, les femmes pouvaient avorter tout à fait librement et sans être déclarées illégales ou paria, grâce notamment à cette femme ministre anarchiste.
On peut continuer un peu encore l'histoire. Ouais, on a plein de choses à dire de toute façon. Hein. Oui, on n'aura pas assez de l'émission, de toute l'émission Feu de tout bois de ce soir pour tout dire, mais ce n'est pas grave.
Voilà. Donc, j'espère que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ne découvrent pas l'histoire de la Révolution espagnole ce soir, mais ceci dit, on sait bien que ça n'a jamais été trop détaillé dans nos petits livres d'histoire bien propres sur les cours d'école de l'éducation nationale. Les mouvements d'émancipation n'ont pas toujours bonne presse dans la presse journalière, quotidienne, etc., hebdomadaire, mais encore moins dans les manuels scolaires. Alors, pour donner un petit repère à toutes celles et ceux qui n'avaient pas entendu parler de cette époque, on peut signaler que le 26 avril 1937, c'est la ville de Guernica, au Pays Basque, qui a été bombardée. Alors, il a été bombardé par l'aviation de la Légion Condor. C'était des troupes hitlériennes, en fait. Hein. Hitler qui soutenait Franco, évidemment. Et donc, Guernica, c'est le nom d'un célèbre tableau de Pablo Picasso, même si je ne suis pas un grand connaisseur d'art, je crois que je ne me trompe pas, qui a tenu à représenter ce moment de la guerre, parce que ça a été un massacre à ciel ouvert, on va dire, puisque c'était un dimanche, jour de marché dans cette ville du Pays Basque. Et donc voilà, c'est le peu qui a diffusé largement de cette guerre, de cette révolution sociale espagnole, c'est principalement ce tableau de Pablo Picasso, que vous pourrez maintenant rattacher à quelques souvenirs, j'espère, de cette soirée.
Et oui, mais en tout cas, ce qu'on peut dire au niveau militaire, c'est que cette guerre qui a eu lieu en Espagne a été un peu le laboratoire de nouvelles armes et de nouvelles manières de faire la guerre qui ont été après utilisées beaucoup plus largement pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment par exemple cet exemple de Guernica avec le bombardement des populations civiles dans un objectif de découragement finalement de l'ennemi. C'était quelque chose de nouveau, en fait. Je pense que c'est la première guerre où une telle chose a été pratiquée, en fait.
En s'appuyant sur les grands souvenirs que j'ai de l'histoire, quand on me parle de 14-18, je pense aux guerres de tranchées, ces deux armées qui s'affrontent. Là, c'était clairement l'attaque donc d'une armée alliée à Franco, mais sur un sol qui lui était étranger, directement contre les populations. Voilà, c'était clairement de l'attaque pour effrayer les populations, pour que les populations n'aident plus les forces qui souhaitaient la révolution sociale. Il y a eu des armes qui ont été testées, sûrement un petit peu, notamment au niveau de l'aviation. Il y a eu beaucoup de stratégies, en fait, pour effrayer les masses afin qu'elles se retournent contre les mouvements révolutionnaires. Si on développe un petit peu maintenant, c'est des choses qui ont été aussi faites en Algérie par l'armée française, et qui, au final, les armées ou même les polices du monde ont reculé un petit peu là-dessus, puisque se sont rendus compte, surtout après l'Algérie, que ça générait plus de rebelles que ça n'effrayait les populations. En fait,
voilà. Ça rend les gens plus enragés, quoi.
Voilà, tout à fait, oui, on le constate un petit peu dans tous les conflits où les populations civiles sont agressées par des forces armées qui sont totalement étrangères au pays, qui n'ont rien à voir et qui viennent imposer leurs forces à des populations. Évidemment, les populations ne font que... le ressenti ne fait qu'augmenter au sein de ces populations, et évidemment... À cette époque-là, même si ça n'avait peut-être pas été théorisé, ça réagissait déjà pareil, quoi. Ça n'a pas vraiment été c'est pas ça qui a fait basculer le conflit du côté franquiste, on va dire.
Et alors, pour en revenir un peu à la chronologie, à l'histoire, Donc cette révolution sociale, elle a duré assez peu longtemps, puisque cette guerre civile en Espagne, elle a lieu entre juillet 1936 et février 1939. Donc ça représente 2 ans et demi, en fait. C'est assez court. Et malgré ça, beaucoup de choses qui ont été expérimentées, parce qu'en fait, une fois qu'il y a eu le soulèvement militaire et les populations qui sont organisées pour résister à ça, il y a eu vraiment plein de mesures qui ont été prises pour se réapproprier la terre, se réapproprier les usines, les transports en commun. En fait, toute l'économie, finalement, a été réappropriée par les gens d'une manière et dans un fonctionnement différent de celui qui avait lieu jusque-là. Ça a donné lieu à beaucoup d'expérimentations en temps réel, on va dire. Enfin, voilà, il y a eu, en 2 ans, il y a eu deux récoltes, 2 années de, on va dire, où les gens ils ont tout cultivé la terre, ils ont semé, ils ont récolté. Et ça a quand même beaucoup marqué les esprits. Les gens qui l'ont vécu eux-mêmes en ont été marqués toute leur vie, un petit peu illuminés, je dirais, par ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et ça a justement fait couler beaucoup d'encre et fait parler beaucoup de gens sur qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et en quoi ça peut nous faire réfléchir aujourd'hui.
Oui, enfin, moi je le rapprocherai un petit peu de ce que je parlais, de, notamment hein, du droit à l'avortement. Quoi. C'est des choses qui ont été effectivement expérimentées, mises en place et qui n'ont pas eu le temps de réellement s'implanter, malheureusement, puisqu'il y avait des énormes combats. Mais quand on pense que c'est justement pendant une zone de combats très forts que des expériences de collectivisation de terres, c'est-à-dire qu'il y avait des villages entiers. Il faut savoir que quand il y avait eu des soulèvements populaires, qui avaient évidemment ils avaient chassé les propriétaires, la propriété privée avait été abolie, quoi. La propriété privée, c'est quand même le pilier du capitalisme et de toute l'oppression du riche sur le pauvre, en fait, hein, puisque possède toujours plus que le pauvre. C'est une la palissade, évidemment. Et donc, savoir qu'il y avait des villages entiers qui ont été, où toutes les terres ont été collectivisées, c'est-à-dire que collectivisées, elles n'appartenaient plus qu'à la collectivité. La collectivité qui décidait, par des discussions tous les soirs, du travail à faire pour le lendemain, de la répartition des tâches, etc. C'est-à-dire que les ouvriers eux-mêmes ont, du jour au lendemain, choisi, décidé et réussi à s'organiser pour travailler la terre, alors sur certains secteurs. Alors, faire attention parce qu'on n'a pas les chiffres en direct, il n'y avait pas de pesée à la coopérative, on va dire, mais il y avait des augmentations notables de production, à tel point que beaucoup de collectivités se retrouvaient avec des excédents et du coup échangeaient ces excédents contre d'autres denrées avec d'autres collectivités voisines. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à s'imaginer comme ça. On peut citer, pour les curieux et les curieuses, Vivre l'Utopie. C'est un film qui se trouve en téléchargement, enfin, ou en streaming sur YouTube, donc, où est pas mal détaillé effectivement tout ce mouvement de collectivisation et toute l'ambiance que créait en fait, donc, le fait qu'il n'y ait plus de propriété privée. Ils avaient aboli la monnaie aussi, hein, en 36, ça a duré jusqu'à 37, hein, l'abolition de la monnaie en faisant large. Mais voilà, après les coins pauvres d'Espagne, évidemment, ils n'avaient pas beaucoup de monnaie aussi, donc l'abolition n'a pas beaucoup changé, mais le fait qu'ils se retrouvent à pouvoir disposer des terres, les travailler comme ils voulaient, s'organiser comme ils voulaient, mais voilà, ça a conduit à des zones, enfin, dans beaucoup de secteurs, à pouvoir réduire le temps de travail. Leur objectif était à 40 heures, et d'après les récits, certaines collectivités ont réussi à descendre même à moins de 40 heures par semaine pour du travail de la terre à l'époque. Hein. Il n'y avait quasiment pas de mécanisation, c'était tout à la main, etc. Et avec le travail des bêtes. Et donc, voilà, c'est quand même tout ce mouvement de collectivisation a été très fortement implanté, notamment en Catalogne et en Aragon, et donc a servi à nourrir les populations, mais aussi les unités qui étaient au combat, les milices. Donc, en fait, ils se sont retrouvés avec une production très, très supérieur en fait à ce qui était juste avant, quand c'était les propriétaires qui, et leurs contremaîtres qui donnaient les ordres. Après, je pense qu'on pourra peut-être passer un petit passage, je ne sais pas si c'est prêt, sur l'éducation, parce que j'en ai parlé quasiment dès le début, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Et comme c'est un lien avec le fait que les paysans avaient réussi à se libérer des heures de disponibilité. Si c'est vrai, Sophie.
Il faut reconnaître que 95% des ouvriers et paysans espagnols étaient analphabètes. Quelques-uns savaient écrire leur nom, mais c'était tout. Par contre, presque tous savaient compter, sans besoin de crayon ni de papier. Pour les quatre opérations élémentaires, ils avaient une machine à calculer dans le cerveau. On organisait les écoles, pour ceux qui voulaient apprendre à lire et à écrire. Les cours avaient lieu le soir après le travail. Vous pouvez croire que c'était un spectacle étrange. Et pourquoi ne pas le dire, émouvant. Ces hommes étaient penchés sur leurs livres, attentifs à épeler l'alphabet, ou essayant de bien tenir entre leurs doigts calleux le frêle bâtonnet de la plume, que le poids de leurs mains, habitués à manipuler les lourds outils des champs, écrasait sur le papier. Certains paraissaient très vieux. Le travail de la terre avait durci les mains, voûté les épaules. La misère avait creusé leurs joues, ridé leur front. Ils n'avaient peut-être plus que quelques années à vivre, et pourtant ils venaient tous les soirs, après une journée de labeur, s'asseoir au banc de la classe.
Donc voilà encore un extrait de l'excellent, on va dire, film radiophonique construit, donc, je vous le rappelle, autour du récit d'Antonio Jiménez, Les Fils de la Nuit. Voilà, et ce passage est très parlant de tout ce que le discours d'émancipation du mouvement ouvrier, on va dire, et paysan, donc, si on fait un distinguo, du discours qui était porté à cette époque-là. Et c'était vraiment, c'était pas se libérer du temps forcément pour des loisirs, pour aller forcément boire, même si évidemment il n'avait pas refusé de temps en temps un petit moment agréable autour d'un verre. Voilà le souhait de tous ces acteurs de cette révolution sociale, qu'ils soient combattants, paysans, ouvriers, c'était l'éducation, parce que ils avaient bien conscience que c'était par les connaissances qu'ils arriveraient à se libérer du joug de tous les oppresseurs qui voudraient revenir leur imposer des conditions de vie d'exploiter, on va dire. Donc là aussi, je le rappelle, c'est au moins du côté anarchiste, ça s'était beaucoup appuyé sur les pensées et les ouvrages développés par Francisco Ferrer. Et pour ce qui concerne l'éducation qui était dispensée, comme on parle pas mal là, depuis le début du mouvement anarchiste anarcho-syndicaliste, il faut quand même savoir que c'était pas de l'éducation à l'anarchie, c'était pas de la propagande ou du bourrage de crâne aux idées libertaires. C'était, d'après tous les récits là, que à titre personnel j'ai pu lire, et tous les exemples qui ont été cités, c'est vraiment un fait marquant, c'est que le domaine des œuvres, on va dire, étudiées quand il s'agissait de cette thématique dans des cours, c'était n'importe quel auteur ou auteur qui avait marqué une époque ou un style littéraire, hein. C'était pas que de la lecture de théoriciens anarchistes, voire même elle n'était jamais proposée.
Je vais vous demander ce que vous faites là. Pourquoi vous faites ça? pour contester premièrement contre la loi 78 et pour contre la hausse des frais de scolarité pour l'accessibilité aux études pour tout le monde.
Expliquez aux auditeurs qu'est-ce que c'est la loi 78.
En fait, c'est une loi qui restreint nos droits de manifester. En fait, je pense que le gouvernement pensait arrêter les manifestations avec cette loi-là, mais tout le monde s'est tenu debout. Au contraire, ça a soulevé comme la colère. Et puis, dans le fond, c'est pour ça qu'on vient chaque soir. On a trouvé un moyen pacifique de donner notre désaccord, mais on contrevient quand même à la loi parce qu'on ne donne pas l'itinéraire. On est plus que 50 personnes, moins de 8 heures à l'avance. Donc, c'est un peu ça.
C'est-à-dire que là, ce soir, on n'a pas le droit d'être là tous ensemble?
Non.
D'après la loi?
Bien, en fait, tant qu'on est stable, oui. À partir du moment où on va marcher, non. On va être tous légales. D'ailleurs, à partir de 20h30, les policiers vont la déclarer légale, mais vous ne pourrez pas l'entendre parce que le son des casseroles va enterrer la manifestation. Et ce qui est particulier ce soir, c'est que il y a des juristes, des avocats qui marchent en silence et qui vont finir la manifestation ici bientôt, d'une minute à l'autre. Ils vont faire des discours et ensuite on va partir pour la marche nocturne.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Erdi Wa, toujours dans l'émission Feu de tout bois. Et comme si vous êtes attentif à l'émission depuis le début, vous devez avoir remarqué qu'on a fait un brutal changement d'ambiance, un brutal changement de contexte, puisque on était en 1936, 1937, dans la Révolution espagnole, dans les collectivités en Aragon, dans tout ce mouvement de changement et d'auto-organisation. Et puis là, d'un coup, on vient de partir au Québec, à l'époque tout à fait actuelle. Hein, vous avez bien reconnu les petits accents québécois. Et donc, j'avais envie de vous faire cet intermède pour dire deux mots sur ce qui se passe donc, depuis le mois de février au Québec, où il y a une grosse, grosse lutte qui est en cours, qui a été démarrée, initiée par les étudiants. Au départ, en réaction contre une augmentation des frais d'inscription, des frais de scolarité à l'université. Et en fait, ce mouvement, progressivement, il s'est étendu plus largement dans la population québécoise. Il s'est étendu, pas vraiment exactement à d'autres revendications, mais en tout cas, le gouvernement de droite, le gouvernement de Jean Charest, qui était un peu pris au dépourvu, on va dire, par toute cette agitation, a fait voter une loi. Une loi répressive qui empêche ou qui restreint très fortement en tout cas le droit de manifester. Et ça, plutôt que de calmer les esprits, on va dire, ça a mis le feu aux poudres. Et donc maintenant, on est depuis plusieurs mois dans une situation où tous les jours, dans les grandes villes, mais aussi maintenant apparemment le mouvement il rejoint les plus petites villes de province, il y a des concerts de casseroles, des manifestations non autorisées tous les soirs pour protester contre, je pense plus généralement que ces frais d'inscription, contre une politique ultra-libérale du gouvernement en place. Et donc c'est bien, les gens ne se laissent pas faire, ils s'agitent. Et donc ce mouvement, il y a des petits malins de journalistes qui ont eu l'idée de l'appeler le printemps érable. Hein, vous voyez un peu en référence aux révolutions arabes du printemps de l'année dernière. Et l'extrait que je vous ai fait entendre, c'est un extrait de l'excellente émission de radio « Là-bas si j'y suis » que vous pouvez écouter en direct sur France Inter tous les jours. Cette émission est faite par Daniel Mermet, qui est aussi un petit peu critiqué par un certain nombre de personnes, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui, même s'il prône des idées de solidarité, d'égalité, etc., il est, paraît-il, quand même un petit peu dictatorial dans son fonctionnement par rapport à son équipe, voire éventuellement un peu sexiste, voire même fortement sexiste, voire même à faire des formes de harcèlement sexuel sur certaines de ses collègues journalistes. Enfin, c'est des choses, c'est des informations assez sûres que j'ai entendues là-dessus. Hein. C'est pas des affreuses rumeurs que je colporte. Donc voilà, je n'ai pas une sympathie pleine et entière pour ce monsieur Daniel Mermet, mais néanmoins, je pense que l'espace de parole, l'espace de reportage, l'espace d'expression qui tient depuis plus de 10 ans sur France Inter, c'est quelque chose de très important. C'est un espace où on a accès à des informations sur les luttes en cours, mais aussi sur des luttes historiques, avec des très bonnes émissions sur tout ça. Et donc, je vous recommande une série de 3 émissions que son équipe a réalisées, donc sur le printemps érable, qui sont téléchargeables. Et ça, c'est aussi un très bon point de cette émission, sur le site internet labas.org, sur lequel vous pouvez soit écouter en direct, soit télécharger toutes les anciennes émissions, en fait. Donc ça, c'est quand même un outil très intéressant. Hein. S'il y a des moments où vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à aller fouiller dans les archives de cette émission et écouter des choses. Mais ce qui est chouette aussi dans cette série d'émissions, c'est qu'ils ont passé des musiques qui sont réalisées en ce moment par des artistes, des chanteurs, des chanteuses, qui parlent de la lutte qui est en cours. Donc je vais essayer de vous en mettre un maintenant, en même temps que je vous parle. C'est pas complètement évident d'en même temps parler dans le micro et bidouiller les petites manettes de l'ordinateur, mais je vais y arriver. Je ne sais pas, Richard, si tu as...
Oui, mais justement, si je peux juste me permettre, parce que tu soulignais une certaine rupture entre l'ambiance, mais finalement, moi, je trouve une certaine continuité, plutôt, puisqu'on parlait tout à l'heure des mouvements ou des attaques de l'armée et des soutiens franquistes sur les populations qui n'avaient fait que générer des rebelles. Et bien là, on voit qu'encore une fois... Un gouvernement super démocratique, tout ça, super chouette, essaye de faire passer des lois super répressives. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de calmer le mouvement, eh bien, il le dynamise. Donc, merci à lui pour cette relance de mouvement qui avait un peu de tendance à s'essouffler par moment.
Oui, et puis cette démonstration, finalement, hein, que ce principe fonctionne toujours bien. Donc, je vais arriver au moment où je vais arriver. Dans quelques secondes, voilà.
Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Afin d'écraser tout ce qui est petit et fragile, y'a pas de nuit sans journée avortée, pis de sang dans les mains. Tu veux juste du gros cash, puis des portes coulissantes, des poupées russes, puis des montagnes communicantes, des gratte-ciels dans tous les ghettos du monde entier, puis fourrer tout ce qui bouge avec la spéculation. Tu veux modifier les paysages, la planète, remplir les vallées, aplanir les montagnes, jouer avec le chimique puis le nucléaire. Tu suis la logique de détruire avant de construire. T'ouvres les frontières et tu violes la culture avec une gang de gros portefeuilles mercenaires, gendarmes du monde moderne et gestion de crise. C'est la mathématique de l'ovale et du pentagone pour contrecarrer tout ce qui tourne pas rond. Tu peux garder tes poignées de main vers la populace, puis ton sourire blanchi comme l'argent qui brasse. Depuis des siècles, où t'as voulu faire de l'homme un animal inhumain pour que tu puisses dormir tranquille sur ton capital. Et c'est avec des bateaux qui venaient d'Afrique que t'as accumulé des Himalayas de gros cash éternel. T'as détruit plus d'un peuple dans ta vie, mais on t'a jamais accusé de génocide. Ton histoire est jalonnée de plein de cadavres, mais ça se fait pas d'accuser la main qui frappe plus fort que les autres. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde.
Consommer, on a du stock pour combler tout de vos vies serviles. silence qui se complaît dans l'abondance et où les gens se mettent en transe devant la réussite et les biens matériels. Donc quel plaisir artificiel. Société de contradictions se côtoie beauté canon, dans Hollywood au fototon, il y a des obos qui supportent la crise de cœur dans cette culture du hamburger. De poser entre richesse et pauvreté, moi je me sens pas trop concerné. En autant que ces choses ne se passent pas dans ma vie, je rentre la tête dans mon nombril. Si la vie vous intéresse, vous êtes à la bonne époque, venez célébrer cette grande messe. Pour vous sentir inutile, consommer un petit stop, pour combler tout de vos vies, c'est lui.
Voilà, donc on vient d'entendre deux chanteurs de groupe québécois dont je n'ai malheureusement pas le nom parce qu'il n'était pas donné, que je vous ai extrait directement de manière un petit peu sauvage de l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, consacrée au printemps érable. Voilà, donc émission que je vous encourage à écouter. Voilà. Et donc on va revenir maintenant à notre grand sujet du soir. Et on va réécouter un petit extrait d'Hérimenologue sur un témoignage et le récit de cette révolution en Espagne entre 1936 et 1939.
À notre passage à Bujaraloz, on nous remit une forte somme d'argent, la solde de 3 mois. 10 pesetas par jour pour essayer de nous faire tuer. C'était pas trop mal payé. J'avais bien entendu dire que pour ne pas effaroucher les gouvernements des pays démocratiques, qui pouvaient nous aider en nous vendant des armes, le comité révolutionnaire avait été obligé de remettre en circulation les pesetas. Mais pour moi, ce fut comme une révélation. La révolution avait échoué. Comme en Russie, quelque temps après la victoire des masses ouvrières et paysannes, les chefs du Parti communiste déclarèrent qu'il fallait faire un pas en arrière et rétablir la valeur de la monnaie. Ce premier pas avait été suivi de beaucoup d'autres, et le peuple russe n'avait fait que changer de maître. Après le tsar, père de toutes les Russies, le petit père du peuple, Staline.
Conservo aquel cariño que tuve para ti.
Barcelone ne fit qu'augmenter mon amertume. Les Ramblas regorgeaient de monde. La prostitution régnait en souveraine sur la grande ville. Les miliciens en permission, reconnaissables à la salopette, mono, qu'ils avaient adoptée, remplissaient les rues de leurs chants et de leurs rires, sans voir que la cause était trahie. La révolution morte. Il ne restait plus que la guerre contre le fascisme, la guerre entre deux formes d'esclavage. L'argent, cette peste, avait recommencé son œuvre.
Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarte. Nadie quiere consolarte en mi aflicción.
Après une courte visite au syndicat, Lorenzo me conduisit chez des amis, où je fis la connaissance de Francisco et Emilio Ferrer, petit-fils du fondateur de l'école moderne, fusillé à Montjuïc avant la guerre 14-18 pour ses idées. Francisco décida de venir avec nous en Aragon avec celle qui était sa compagne, Giudita, une Italienne, vieille militante anarchiste chassée d'Italie par l'avènement de Mussolini. Elle avait connu Francisco encore enfant, s'était attachée à lui et ne l'avait plus quitté, jouant auprès de lui le rôle de gouvernante maîtresse. Brave femme, convaincue de la justesse de ses idées, toujours prête à rendre service et à faire tous les sacrifices pour le triomphe de son idéal et le bonheur de San Francisco.
Voilà donc un nouvel extrait. On avait choisi sciemment de s'appuyer beaucoup sur le récit d'Antonio Jiménez, parce qu'il est d'abord, c'est un témoignage direct, ce qui est quand même une chose rare avec cette qualité de détails et de recul politique. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la chronologie, hein, même si on le fait en fil rouge un peu, ça ressort de temps en temps dans les propos, mais à la suite de cet extrait, donc, il semble important de préciser qu'en mai 1937, à Barcelone, en fait, principalement, les rues ont été le théâtre de combats entre les forces républicaines. Et on va dire à cette époque-là, en tout cas, ces combats ont été à l'initiative principalement du Parti communiste espagnol, qui était soutenu par Staline et qui a donc réussi à être approvisionné en armes, en conseiller militaire ou politique, si on peut appeler conseiller politique les envoyés de Staline, parce que
les tueurs.
Voilà, c'était principalement du nettoyage de leaders idéologiques. Voilà, c'était en mai 37 à Barcelone, et on parlait tout à l'heure que peut-être les événements comme Guernica, même s'ils avaient donc le massacre, je rappelle, d'un village espagnol au Pays Basque, avait incité des gens plutôt à se rapprocher du mouvement révolutionnaire qu'à s'en éloigner, comme croyaient les grands théoriciens militaires. C'était peut-être pas un événement marquant dans la défaite du camp républicain. Ces affrontements, par contre, de Barcelone sont quand même assez unanimement, on va dire, pas que dans le camp anarchiste et libertaire, mais même parmi les trotskistes, le PUM, le Parti Ouvrier Unitaire Marxiste, etc., considérés comme un vrai tournant dans le moral de toutes les populations à continuer la révolution. Quoi. Voilà.
Ouais, on peut parler carrément d'une forme de sabotage, quoi, volontaire organisé de la part de Staline, de l'Union soviétique, de saboter la révolution espagnole, puisque bah, c'est un petit peu ce qu'on entendait qui était dit dans cet extrait des souvenirs de Jiménez, c'est que en fait l'Union soviétique n'était plus du tout un pays socialiste, un pays émancipé, un pays de liberté sociale, pas du tout du tout. L'Union soviétique était depuis longtemps retombée aux mains d'une poignée de dirigeants très autoritaires, très violents, très destructeurs, qui ont assassiné, je me souviens, je sais plus où j'avais lu ça, qu'au XXe siècle, le pays qui a assassiné le plus de ses ressortissants révolutionnaires, c'est la Russie, c'est l'Union soviétique quand même, donc... C'est intéressant de le savoir. Et en tout cas, c'est sûr qu'en Espagne, eh ben, les envoyés de Staline ont fait un nettoyage. Enfin, ils ont assassiné beaucoup de gens, en fait. Notamment Durruti, non ?
Alors, sur le sujet Durruti, ça peut prendre plus longtemps que de raconter toute la guerre au jour le jour. En fait, Durruti, pour les auditeurs auditrices qui ne le connaîtraient pas, faisait partie d'un groupe un peu, enfin, clairement pour l'action directe avant la guerre et la révolution sociale espagnole, puisqu'il y avait Durruti, il y avait Ascaso et le troisième. Désolé, mais comme ça, je n'aurais pas fait de sexisme dans la soirée, puisque je me souviendrai pas du nom du troisième gars de la ronde de la foire. Mais voilà, donc c'était un militant très connu et très reconnu, et qui, après, suite à la révolution sociale, a pris, on va pas dire le commandement, parce que ça serait faux, mais était un peu la figure d'une colonne donc de miliciens anarchistes, qui s'appelait évidemment la colonne Durruti, et qui lui est mort donc en allant essayer de en allant protéger Madrid, puisqu'ils ont réussi à contrer les franquistes et voire même à les faire reculer autour de la capitale espagnole. Et donc il est mort à ce moment-là, mais ce serait un petit peu long à détailler, on ne sait toujours pas.
Vraiment, c'est quoi le fin mot?
Voilà, si c'est des communistes, peut-être un anarchiste qui l'a tué, parce qu'il avait pris des positions qui déplaisaient à beaucoup de militants de l'époque, ou son entre guillemets, camarade de voiture du moment. Enfin, moi, c'est un petit peu compliqué.
C'est un peu mystérieux. En tout cas, sur, bah, sur l'histoire de ces affrontements internes à l'intérieur du camp républicain, un film qui raconte très bien ça, qui met très bien ça en scène, c'est le film Land and Freedom de Ken Loach, qui raconte l'itinéraire d'un jeune communiste anglais, britannique, qui entend parler de cette révolution en Espagne et qui décide, comme plein de personnes, plein de militants de l'époque, d'aller rejoindre les brigades internationales en Espagne, donc d'aller lutter, d'aller risquer sa vie, finalement, pour combattre le fascisme en Espagne. Et quand il arrive là-bas, il rentre dans un, on va dire, une brigade, enfin, un endroit où il est affilié au POUM, en fait. Il est proche du POUM. Et dans ce film-là, on raconte très bien, on décrit très bien comment s'est passée cette reprise en main du pouvoir, de la direction de l'armée et d'une forme de gestion de l'armée assez militaire qui avait été refusée par les anarchistes, en fait.
Oui, alors évidemment, là, je suis 100% d'accord avec tout ça. Et plus que sur l'idée de militarisation, une des choses que je trouve intéressante avec donc le film Land and Freedom, c'est que c'est un autre point de vue, hein, c'est une autre histoire, on va dire, que l'histoire anarchiste et libertaire. Mais au final, tout se recoupe, en fait, c'est les mêmes analyses au final, donc le point de vue du POUM, des marxistes est le même que le point de vue de... Enfin, le même. Est en gros, sur les grandes phases, le même que le point de vue des libertaires. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça donne un petit peu de crédit à ces deux thèses. Parce que malheureusement, on sait que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Et bien là, on va dire que sur ce coup-là, au moins, les vaincus sont bien d'accord sur un des éléments qui a contribué au recul de la révolution et à certainement la perte de la guerre contre le fascisme, c'est l'intervention plus qu'ambiguë de Staline. Alors, est-ce que c'était véritablement comploté ou est-ce que c'est ces méthodes catastrophiques de vouloir imposer un leadership d'un parti à toute la population, à tous les révolutionnaires qui sont à l'origine? Bon, voilà, enfin, moi je suis pas trop pour la thèse du complot, mais le fait est que la guerre d'Espagne pour Staline, c'était une épine dans le pied, parce que lui il regardait vers ce que faisait Hitler et il n'avait pas trop envie de s'investir, et en même temps il n'a pas pu complètement l'abandonner. Donc voilà, il a pris un moyen terme, il a monté un parti communiste qui était proprement inexistant au tout début, hein, le 19 juillet 1936. Le parti communiste est une force tout à fait ridicule dans le paysage politique espagnol. Voilà, en un an, évidemment, avec beaucoup d'argent, en envoyant des armes, etc., ça a entraîné beaucoup d'Espagnols à adhérer à ce parti au travers duquel ils voyaient une possibilité de battre Franco.
On peut peut-être écouter un petit morceau de musique. Donc je vous propose maintenant toujours un morceau de Serge Ujiroyo, un morceau qui a été composé par lui, qui s'appelle Juillet 1936. Alors je ne sais pas si on va l'entendre en version française ou espagnole.
Espagnole.
D'accord, donc je vous laisse écouter ce morceau.
En julio del 36, en los cuarteles catalanes, topa la muerte con milicias y el pueblo va buscando armas. En pueblecitos y aldeas, los campesinos juntan tierra para sembrar el porvenir. Y sopla el viento libertario. Perdóname, hermano viejo, si te despierto algún dolor al pintar un sueño español donde quedó tu juventud. más quiero de ti aprender y quiero ser tu portavoz. De pie me pondré a cantar y si es preciso a vocear. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos con la vida y la razón. 10 carpinteros sin patrón, a lo lejos de Barcelona, le ponen mano a su labor y sonriendo en el taller. Allá en la Plaza Mayor, los niños llenan la alcaldía y mujeres sin capataz han echado la ropa al sol. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricada levantaremos con la vida y la razón. Mientras que algunos militares se disponen a torear, los obreros de la ciudad van derrumbando la prisión. Por allá se viene la muerte.
Alors on est désolé Serge, mais on te coupe un petit peu le sifflet comme ça, hop. On te réécoutera une autre fois, mais c'est parce que là, malheureusement, l'heure avance, il est presque 21h, donc notre émission Feu de tout bois touche à sa fin. Et il y avait encore quelques petites choses qu'on voulait vous dire pour conclure l'émission. Donc bien sûr, on n'aura pas le temps de parler de tout ce dont on avait envie, on avait eu le projet de vous parler ce soir sur la Révolution espagnole. On n'a pas eu le temps non plus de vous diffuser cette interview qui a été réalisée à Grenoble sur ce groupe de gens qui réfléchissent aux formes d'économie post-capitalisme qui s'appelle la Fabrique du Futur, et où je trouvais que ça aurait été bien finalement dans la suite de l'histoire de ce moment révolutionnaire en Espagne. Mais bon, c'est pas grave, vous pourrez l'écouter la semaine prochaine. J'en profite pour vous rappeler aussi que cette émission Feu de tout bois, elle a lieu en direct tous les jeudis soirs entre 19h30 et 21h sur RDIBOIS. Vous avez de la chance de nous entendre en direct. Il n'y a pas tellement d'émissions en direct, donc voilà. Et puis si vous ne nous entendez pas sur le moment, il y a moyen de nous réécouter en podcast sur le site de RDIBOIS.fr. Et ça, c'est quand vous voulez. Et pour l'instant, les émissions, elles sont toutes là depuis le début. Donc vous pouvez aussi réécouter d'autres émissions qu'on a faites sur d'autres sujets. Ce que je voulais vous dire aussi, avant de reparler et de conclure sur l'Espagne, c'est vous prévenir, vous annoncer qu'on fera probablement des émissions qui vont parler du tourisme dans les prochains temps, puisque c'est un sujet qui nous concerne d'assez près. Le tourisme, et voilà, on va vous parler depuis divers points de vue, depuis le point de vue de gens qui travaillent dans les campings, qui travaillent dans l'animation, qui voilà, et puis aussi sans doute d'autres aspects, vous parler de c'est quoi finalement concrètement les effets du tourisme sur un pays, sur une région, sur des lieux, sur la vie sociale, enfin un peu tout ça, voilà. Et donc, peut-être on peut juste citer les thèmes dont on n'a pas eu le temps de parler. Et...
Oui, alors rapidement, pour ce qu'on ne pourra pas développer ce soir, il y a eu la chute de Barcelone à la suite, on avait dit, des événements d'affrontement dans le camp républicain. Barcelone est tombée donc en janvier 1939, sous les balles franquistes, on va dire. Et juste pour que personne ne parte trop frustré ce soir, on peut signaler que Franco a signifié la fin de la guerre le 1er avril 1939 et qu'à la suite de la victoire de Franco, il y a eu énormément de réfugiés en France, dans les camps de concentration du gouvernement français. Ça s'appelle la Retirada. Ça a entraîné aussi la participation de beaucoup d'anarchistes dans la résistance et ça sera peut-être le sujet d'ici au futur.
Oui, et en tout cas sur ce sujet aussi, on peut dire que dans les régions plus proches des Pyrénées, notamment dans la région de Toulouse, dans la région Midi-Pyrénées, il y a beaucoup encore aujourd'hui d'enfants, de petits-enfants, de ces militants qui ont fait la guerre d'Espagne et même parmi, on va dire, les élus de la région. Et donc c'est assez surprenant là-bas de voir que, par exemple, dans les publications un petit peu officielles des instances départementales, régionales, il y a ces temps-ci, par exemple, en tout cas en 2009, il y a eu tout un cycle de conférences, de films, d'expos photos, etc. sur ce grand exil des réfugiés républicains espagnols en France qui s'est appelé la Retirada. Voilà. Bon, eh bien, merci Richard pour toute cette préparation, tous ces extraits et toutes ces explications que tu nous as faites.
Merci à vous et à toi et à Radio Diwa et à vous de nous avoir écoutés.
Et voilà, et on vous souhaite une très bonne soirée et on va se quitter avec un morceau de musique qui n'a absolument rien à voir avec rien de révolutionnaire, mais vous allez voir, c'est une petite surprise pour terminer. Au revoir à tout le monde.
You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, all the dancing queen. Friday night and lights all low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in swing. You come to look for a king. Anyone could be that guy. The night is young, the music's high, with a bit of country music, everything's fine. You're in the mood for a dance.
Song. Can't figure if you've come to praise birds or the bear.